Camarade gamer, c'est Creepers.
Camarade mélomane, c'est Ron.
Et bienvenue dans la beatbox. Alors déjà, forcément, on va commencer par le traditionnel
Bonne année.
Alors, bonne année, Ron.
Ben, bonne année, Creepers.
Écoute, plein de jeux et plein de musique pour toi, camarade. J'espère que tu vas kiffer.
Mais ouais, bien sûr. On a l'habitude, on est rodé maintenant. On s'est créé une machine à kiff et ça, c'est bien.
Et justement, quand on est dans le kiff, on s'est dit là, on va bondir dans la nouvelle année. Donc forcément, qui dit petit bond, dit jeu de plateforme.
Jump. On vous a fait une petite sélection aux petits oignons. Alors vous allez voir, ça va peut-être vous surprendre. Quand on a préparé l'émission, on pensait chacun de notre côté qu'on allait peut-être mettre des morceaux finalement très classiques. Eh ben non, la beatbox est là pour vous faire découvrir peut-être des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Mais vous pouvez être sûr que cette sélection, c'est du béton.
Et la preuve tout de suite avec le premier morceau de cette première émission de l'année.
Alors on commence en faisant un bond dans le passé, pas un petit, c'était en 1985 qu'est sorti Monty on the Run sur Commodore 64, dont vient la version qu'on a entendue, Amstrad CPC, ZX Spectrum, des machines peut-être que certains d'entre vous connaissez peut-être même pas leur nom. Alors c'est quand même intéressant de voir ce qu'on arrivait à faire avec cette machine, hein. Donc cette version Commodore 64, un bon vieux 8 bits, bon... 64, c'est 8 bits, hein, c'est pas 64 bits comme la Nintendo 64, et c'était bien de la mémoire vive dont on parlait, hein, c'était pas un disque dur, et c'était pas des mégas, c'était juste des kilo-octets. Tout ça pour vous dire qu'un jeu complet, c'était l'équivalent de 2 ou 3 tableaux Excel, donc la musique qu'on vient d'entendre, probablement que ça prend pas plus de place que 7 ou 8 kilo-octets, y en a qui devraient en tirer de la graine quand on se ramasse des jeux qui font 8 gigas. Donc voilà, c'était un petit départ dans le passé loin, mais rapidement, on va grignoter les années pour aller dans le domaine de la magie.
Yeah.
Alors j'avais évité
de le confronter le mois dernier aux aventures chez Sega, mais donc revoilà Mickey dans l'émission de la Beatsbox, et cette fois c'est pour ses aventures sur Super NES.
Ah, t'as réussi à le placer, hein. T'as réussi à le placer.
Ouais, et il est là, The Magical Quest, donc c'est mon petit kiff à moi, monsieur. Hein, vous étiez chez Sega, moi j'étais chez Nintendo, et ce Magical Quest est arrivé tranquillement chez moi, je crois, de mémoire, c'était à mon anniversaire qu'on avait offert ce bon petit jeu, et j'ai plongé complètement dedans, directement les petites notes de musique, la petite cinématique qui nous montre que le copain de Mickey, bah, s'est barré, il faut essayer d'aller le retrouver. Et donc au fur et à mesure de ce petit jeu, donc on commence à enfiler différents costumes. Donc on va avoir le costume de pompier, le costume de magicien, le costume d'alpiniste, et du coup on va avoir différents pouvoirs qui vont nous permettre d'avancer dans ce petit jeu de plateforme, ma foi, fort sympathique. Alors on est d'accord, c'est un tout petit point bon quand même que le jeu qu'on a traité le mois dernier, mais je trouve franchement que cette musique qui a été composée par Marie Yamaguchi, franchement, elle envoie plutôt sympathiquement le pâté, avec une petite connotation, un peu ambiance magique et découverte. En tout cas, moi, je kiffe. Et je me dis, on va rester dans la magie, et cette fois, on va aller frotter une petite lampe. Alors c'est encore à moi la parole, et cette fois on plonge donc dans l'univers d'Aladdin. Et donc vous l'avez sûrement reconnu, on est dans le bonus stage qui était sur donc Mega Drive. Et là je vais vous faire un petit aveu. Alors attention, je m'attends à me faire défoncer dans les commentaires, j'espère que je vais ouvrir un gros débat, parce que généralement ce jeu crée le débat, car je préfère la version Super NES.
N'importe quoi, bah, je te rassure tout de suite qu'il n'y aura pas de débat, hein, parce que personne ne va te croire.
Si, monsieur, il y a débat, et vous avez des gens qui préfèrent quand même cette version Super NES, même si je sais que Shinji Mikami lui-même, celui qui a travaillé justement sur cette version Super NES, a avoué préférer la version Mega Drive, mais moi je suis sûr qu'il a été payé par quelqu'un pour pouvoir dire cette ânerie, parce que je trouve effectivement, alors la version Mega Drive avait épaté tout le monde avec ses gros sprites, justement ses musiques plutôt énergiques de Tommy Tallarico, encore une fois, on en avait parlé le mois dernier aussi, je pense, avec S-Worm Jim. Et donc ce bon Tommy nous a préparé, d'ailleurs c'est un morceau inédit qui n'existe pas du tout dans le dessin animé, un morceau qui est très énergique, très péchu. Mais mine de rien, si on se replonge un petit peu à l'époque quand le film est sorti, et bah la version Super NES était quand même plus fidèle en termes d'animation, en termes d'univers. Il n'y avait pas de gros sabres, parce qu'il n'a pas de sabre, Aladdin, bande de petits coquins.
Ouais, mais il bouge bien par contre, hein.
Ah bah il bouge plutôt bien, on est d'accord, mais il y avait le mode 7 hein, à la fin avec le boss. Il y avait un boss avec
okay,
des modsets.
Ok, t'as gagné, je peux rien dire.
Donc il envoyait quand même bien le pâté sur Super NES, il était assez facile, c'est vrai, par rapport à la version Mega Drive qui était un petit peu pété hein, au niveau des collisions quand même de temps en temps. Enfin bref, très bonne OST je trouve que cette musique d'Aladin de Tommy Tallarico. Donc c'est quand même un des gros points forts de la version Mega Drive, on va quand même lui accorder ça. Voilà, ça reste un jeu très sympathique, hein, rassurez-vous, mais la version Super NES elle est meilleure, et puis c'est tout. Allez, on reste dans la vitesse et on reste aussi sur Mega Drive.
Sonic 3, oh là là, il l'envoyait celui-là. Et alors on va s'intéresser en particulier à ces musiques qui sont excellentes. Là c'est la musique du dernier boss hein, qu'on vient d'écouter. Et il y a une drôle d'histoire autour de la musique de Sonic the Hedgehog 3. Ils étaient nombreux hein, sur le coup et crédités, ce qui fait que c'est un petit peu difficile de savoir qui a fait quoi. Il y avait le compositeur Howard Drostin, le japonais Jun Senoue, et surtout l'équipe du son du King of the Pop, Michael Jackson lui-même.
Ouh !
Eh ouais, donc il se dit très fort, hein, c'est une rumeur persistante qu'il a travaillé directement sur la musique de Sonic 3, mais que son nom a mystérieusement disparu en cours de route. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Peut-être qu'il n'aurait pas été suffisamment content des capacités sonores de la machine et il a estimé que ça ne rendait pas justice à son travail, mais peut-être aussi que à ce moment-là, Michael Jackson, il aimait un peu beaucoup les enfants, en tout cas c'est ce que pensaient les juges, et ces gars, ils étaient pas trop chauds non plus pour avoir dans un Sonic Michael Jackson, l'ami des enfants, écrit en gros quelque part. Alors, de toute façon, je crois qu'on n'en saura vraiment jamais rien, il doit y avoir des tas de contrats blindés de clauses de confidentialité là-dedans. Ce dont on est sûr, c'est que l'équipe du son de Michael Jackson était dessus, le reste, on peut pas réellement avoir de certitude là-dessus. On va rester du côté de chez Sega, on saute une génération sur la Saturn, mais toujours dans la plateforme, vous allez vite trouver lequel, il n'y en avait pas des milliers sur cette machine.
Ouh !
Thank you.
C'était Clockwork Knight, jeu de plateforme donc sur Saturn, jeu en 2D et en 3D. En fait, un jeu globalement en 3D, mais sur lequel on se déplace uniquement sur un plan 2D. C'était un classique à cette époque. Alors, c'est pas un jeu que tout le monde aime, hein, et moi je l'aime plutôt bien. Il y a pas mal de gens qui considèrent que c'est un jeu pas très intéressant. Il était assez court et ils ont pas tort, il faut bien le dire, c'était quand même très classique. Et au niveau de ces musiques, c'est un jeu assez particulier où, je vais être honnête, hein, j'ai fait une sélection, il y a vraiment que deux ou trois morceaux qui sont vraiment excellents sur ce jeu et pas mal d'autres morceaux qui sont sans grand intérêt. En tout cas, ce que vous avez entendu, c'est un petit morceau très jazzy, simple dans sa conception, mais qui rentre bien dans la tête, qui fait bien penser à un gars penché sur son clavier dans une cave un petit peu enfumée et qui aligne les notes. Voilà, moi j'aime bien, je trouve ça sympa, que ça passe bien. En début d'émission, ça va tout seul et ça tombe bien parce que là, on va commencer à aller sur le lourd, sur le très lourd, sur le bleu et rouge et sur le moustachu.
Il est arrivé, tout le monde l'attendait, parce qu'on en avait marre justement de ces jeux, alors qui mélangeaient la 3D, parce que c'était un peu la mode, mais qui n'arrivaient pas du tout à se débarrasser de ces tics de jeux 2D assez plats. Super Mario 64 a réussi à enfin libérer la plateforme, grâce à une gestion d'une caméra absolument parfaite, grâce à la manette de la Nintendo 64. Donc Mario débarque avec sa moustache complètement polygonée, on pouvait même tirer dessus dans le menu, je sais pas si tu te rappelles.
Ouais, c'était rigolo.
C'était quand même plutôt cool. Donc c'est un jeu qui a marqué quand même l'histoire du jeu vidéo, c'est un jeu qui est extrêmement important. Et encore une fois, la bande originale a été confiée à Koji Kondo, et donc là on s'est écouté Dir Dir Doc, qui est une musique absolument magnifique, qui reprend un petit peu, c'est un peu comme toutes les musiques où on a un peu une ambiance, tu sais, un peu aquatique, donc un peu posée, un peu calme, où on se promène un petit peu dans le niveau, donc c'est une musique absolument sublime, donc je tenais absolument à la mettre justement dans cette émission spéciale plateforme.
C'est vrai qu'elle déboîte.
Elle est vraiment très 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 bonne. En tout cas, on va carrément passer à autre chose maintenant, puisque cette fois on va partir à la guerre,
hein. Guerre.
Et on se retrouve tout de suite. Je vous l'avais dit, là, on change complètement d'ambiance. Alors, à vrai dire, avec ce Bionic Commando, j'ai hésité à un moment entre vous diffuser, parce qu'à chaque fois, c'était le thème qui a été repris de manière différente, entre le thème de ce remake, qui est Bionic Commando Rearmed, et le thème du reboot.
Donc, qu'on entend derrière toi pour l'instant.
On entend d'ailleurs derrière, donc vous pouvez quand même entendre les deux versions. C'est plutôt sympathique de la part de notre monteur de l'extrême, qui est là, je crois, Rune.
Ah oui, c'est vrai, il est bon ce mec-là.
Donc, le reboot, il est humble, en plus, il est incroyable. Donc, le reboot qui avait été commandé par Capcom, alors qui a beaucoup, beaucoup moins bien marché que justement le remake sorti sur Xbox Live Arcade au début. Donc, c'est un jeu qui nous bousille complètement nos repères de joueurs, puisque à la place d'avoir un jeu de plateforme classique, le personnage de Bionic Commando a la particularité de se déplacer grâce à un grappin, alors qui permet non seulement de passer de plateforme en plateforme, mais aussi d'éliminer les ennemis et de jouer un petit peu avec des petits casse-têtes qui permettent d'avancer, de prendre des barils, etc. Donc c'était un jeu qui était extrêmement bien fichu. Alors là, je parle du remake, parce que le reboot, moi, j'aime bien, mais il fait pas l'unanimité, en tout cas. Et voilà, il a eu un gros succès sur Xbox Live Arcade à l'époque. C'est un jeu qui a marqué, justement, quand il est sorti. Ça faisait partie vraiment des jeux qui commencent à émerger sur Xbox Live Arcade. Des petits jeux un petit peu sympathiques. Mais bordel, Rune, c'était dur.
Oh là là, c'était dur.
Franchement, hein, on est en train d'en parler un petit peu. Le pauvre, il devait faire un test dessus, donc il a dû le boucler. Moi, j'ai pas réussi. C'est un jeu qui était quand même super dur.
Oh, j'ai sué sur ce jeu, mais j'ai dû perdre au moins 2-3 kilos quoi, sur certains passages. C'était terrible.
Ah non, ça m'a fait monter le stress à de nombreuses reprises, parce qu'on n'a pas l'habitude vraiment d'être... On a les pieds cloués au sol. Et hormis avec le grappin, on pouvait pas du tout se déplacer. Donc c'est très très bien fichu, les niveaux sont très bien conçus. Donc c'était le remake d'un jeu NES, ça j'ai oublié de le dire, hein, qui était fait par Capcom à l'époque. Donc c'est un excellent jeu qui est encore facilement trouvable donc sur Xbox Live Arcade, je crois même sur Steam et aussi sur le PlayStation, sur le PSN. En tout cas, si vous avez envie de tenter la chose, allez-y, maintenant ça coûte pas grand-chose. Et donc pour conclure, on peut aussi dire que ça a été composé par Simon Wiklund. Et donc ce thème est ultra efficace, il correspond bien vraiment à l'ambiance du jeu. En tout cas voilà, Bionic Commando Rearmed, c'était carrément chouette. Allez maintenant, Braun, on va jouer à la poupée.
Venez jouer à la poupée avec moi.
since the voodoo doll. A phenomenon known to just a few, that voodoo doll. He jumped out of some wacky magic brew, and that's not all. Things are getting so strange since he came round, a hoodoo brawl. There's a mystery taking over town. He's just a little fella made of burlap and thread. He looks a little funny with those pins in his head. His cause and effect isn't really correct, but he still fills the bad guys with dread. Vince the voodoo doll, you're gonna feel full when he has lunch, a voodoo doll. You're gonna feel bad when he goes crunch against the wall. And if you should slip, you're gonna take a voodoo fall. He's a hero who's just 10 inches tall. Vince the voodoo doll.
Alors cette musique vient du jeu Voodoo Vince. Sorti sur Xbox en 2003. Alors sur Xbox, on peut pas dire qu'il y avait beaucoup de jeux de plateforme.
On peut pas dire qu'il est super connu, parce que j'avais complètement oublié.
Bah oui, et bah oui, mais c'est pour ça, j'ai un petit peu creusé pour vous, parce que j'adorais ce jeu. Déjà parce que les musiques sont géniales. Donc celle que je vous ai passée, c'est le thème du héros, donc un thème chanté. Mais les musiques du jeu reprennent à fond tout l'univers du bayou. Donc on a des thèmes qui sont un petit peu jazzy, blues. C'est vraiment remarquable le travail qu'a fait Steve Kirk sur ce jeu. Et ce jeu avait un concept qui était hyper sympa. Alors déjà, il était bien réalisé, ça fait pas de mal. Mais son principe, je crois, il est inédit. J'ai pas l'impression qu'on ait refait ça depuis. Puisque pour abattre les adversaires ou les passer, on était comme on jouait une petite poupée vaudou. Il fallait se faire mal à soi-même. Donc se planter des couteaux pour que l'autre ait mal, se cramer la tronche. Donc un petit jeu un peu sado finalement, mais furieusement original, très entraînant et une très belle musique. Alors pas forcément si simple de le trouver aujourd'hui, je suis pas très sûr qu'il soit compatible sur Xbox 360, mais au moins allez jeter un petit coup d'œil sur une vidéo sur YouTube, c'est un jeu pas très connu mais à mon avis très sympa.
Bon, en tout cas ça donne envie, je vais essayer de me trouver ça moi.
Alors je vais enchaîner sur un autre jeu qui lui est peut-être plus connu au niveau de sa réputation, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a joué et c'est bien dommage. Et moi comme je l'aime beaucoup, j'avais envie qu'on en parle et qu'on écoute sa musique. Vous avez tous reconnu, bon, ou alors vous l'avez pas reconnu, je vais vous dire ce que c'est. Psychonauts, un jeu sorti sur Xbox et PS2 en 2005. Alors quand on a le choix, il faut mieux prendre la version Xbox, c'était quand même un cran au-dessus. Donc dans son jeu complètement barré, on va jouer un personnage venant du cirque, d'où les musiques qu'on entend, et qui va voyager dans le cerveau tordu de différentes personnes. Évidemment, ça permet tous les délires possibles et imaginables, et vous n'avez pas de mal à imaginer quel type de délire on peut trouver quand on sait que l'auteur du jeu n'est rien de moins que Tim Schafer. Amen. Et que c'est une production Double Fine, donc on se doute qu'il y a un minimum de qualité derrière, et je vous le confirme. C'est un jeu qui était sorti en fin de vie de la Xbox, et c'est pas vraiment un jeu qui collait bien au public PS2, donc il a pas trop rencontré son public, mais tous ceux qui ont mis la galette dans leur machine ne l'ont pas regretté. Et je vous signale qu'il y a un Kickstarter sur la suite de Psychonauts actuellement. Kickstarter qui a presque atteint son objectif. Au moment où je parle, il est très possible que l'objectif soit atteint. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que voilà un jeu qui typiquement peut tirer parti de Kickstarter, contrairement à d'autres grosses productions, donc je tairai le nom.
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
Non, je pourrais dire ça comme ça, au hasard. Donc c'est une très bonne nouvelle, il y aura un Psychonauts 2 s'il est aussi barré que le précédent, et il y a des chances. Il faudra le surveiller avec un œil très attentif. Alors Psychonauts, c'est un héros un petit peu original. Là maintenant, on va aller faire un petit tour auprès du super-héros le plus ancien.
Bon, ok, je me tape encore un moustachu. C'était la musique d'Astérix. Alors,
YMC,
je vous le concède. Le jeu était pas fabuleux. Je vous le concède aussi. Cette déo fait un petit peu fête de la bière. Mais bon, moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Alors, c'est un peu le côté mélancolie hein, qui fonctionne là-dessus. C'est un jeu que j'avais eu à un Noël. Voilà, donc c'est le fameux jeu à licence, vous savez, qu'on vous offre à Noël. Mais bon, je suis plutôt pas mal tombé parce que les jeux Astérix sont pas forcément catastrophiques. Alors attention, je parle pas des adaptations des films, hein, qui étaient dégueulasses sur PlayStation 1. Là, on est vraiment dans l'adaptation de la bande dessinée. C'était fait par Infogram. La musique est composée par Frédéric Menzen. Enfin, si je dis pas de bêtises, que c'est compliqué de trouver les compositeurs de ces jeux-là. Et donc, c'est une musique qui reste un petit peu en tête. On est un petit peu dans le la yalala et hou, hein. On est vraiment dans le côté un peu cool. Donc voilà, moi, c'est un jeu que j'aimais bien. Donc, je vais le placer dans cette émission-là. Voilà, c'est un jeu que j'ai même reparcouru il y a très peu de temps, parce que je l'ai trouvé pas très cher, forcément, en brocante. Donc, j'aime bien me le relancer comme ça pour écouter un petit peu les musiques. Et c'est un jeu qui a sa petite difficulté quand même, avec une ambiance vraiment bien respectée au niveau de la bande dessinée, je trouve. Et même des très bons dessins animés, parce qu'on trouve un petit peu cette patte-là, le côté un petit peu humour avec les soldats romains qui s'envolent, etc. Donc voilà, ça a déjà duré trop longtemps sur Astérix. En tout cas, moi, j'aime Astérix. Donc, la musique est pas trop longue. En tout cas, c'était plutôt rigolo.
On Merci va passer à la suite, mon petit bonhomme.
Oui, allez, on y va. Et là, on va grimper un petit peu sur les toits. We'll be right back. Voilà la petite surprise de l'année 2008, Mirror's Edge. Et vous avez reconnu un petit peu le côté électro de cette bande originale composée par Solarfield. Alors c'était la première bande originale de jeu vidéo composée par ce musicien suédois. Et donc c'est un jeu qui avait surpris un petit peu tout le monde pour deux choses. Premièrement, c'était un jeu Electronic Arts. Et on s'y attendait pas, parce qu'un jeu Electronic Arts un petit peu autre que FIFA et Need for Speed soit aussi chouette.
Et sans numéro derrière.
Tout à fait. D'ailleurs, ça lui a porté un petit peu malheur, puisque ça... C'était pas être un carton, hein. En plus, il est sorti en fin d'année au milieu de tous les gros jeux. Il y avait aussi son copain Dead Space, hein, qui avait pas fait un méga carton non plus. Donc, c'était développé par DICE, les papas des séries Battlefield. Et donc, ils ont tenté un jeu qui mélangeait, parce que c'est quand même de la plateforme, voilà, vue première personne, où on pouvait un petit peu faire, comment on appelle ça déjà, du parcours. Voilà, donc on pouvait grimper un petit peu partout, courir sur les murs, s'agripper, donc il fallait vraiment observer les niveaux, mais en même temps, il fallait être extrêmement rapide. Donc on était vraiment sur un mélange, on pouvait traverser tout le jeu sans tuer personne, ce que j'avais réussi à faire, parce que je suis un pacifiste, mais j'ai quand même mis des grosses mandales dans la gueule de ces salopards. Donc on était dans un univers un petit peu aseptisé, qui mélangeait le blanc et le rouge, donc un univers, alors c'est très classique hein, au niveau de l'histoire, on est dans une société où on ne peut pas dire grand-chose de travers, ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe en ce moment. Peut-être qu'on voit peu des tuyaux rouges partout maintenant, on faudrait peut-être faire gaffe un petit peu dans les rues.
Faudra que j'essaye, voir si on peut grimper sur les murs, du coup.
Moi, je vais pas essayer, je vais me casser la gueule. Moi, j'irai pas très loin, en tout cas. Donc, c'était un jeu qui m'a vraiment agréablement surpris. La bande originale est vraiment chouette. Alors, j'aurais pu vous diffuser la classique musique avec Lisa Miskovsky, qu'on a entendu un petit peu partout, mais j'ai préféré vous mettre Jackknife, une musique un petit peu mystérieuse, un petit peu énergique, on était un peu dans une poursuite, donc ça représente vraiment bien l'ambiance du jeu. En tout cas, Mirror's Edge, c'était chouette, et c'était tellement chouette que même s'il a pas fait un gros carton et les fans, comme d'habitude, ont hurlé pour avoir une suite, et ça va arriver cette année, et bonne nouvelle, encore une fois, c'est encore une fois Solarfield qui va faire la bande son. Allez, retour à de la plateforme plus classique, quoique... We'll be right back.
Little Big Planet est sorti en 2012 sur PS3 et je dois vous avouer que je me demande si c'est pas mon jeu préféré de la PS3. Little Big Planet, moi j'avais adoré ce jeu. Visuellement, je trouve que c'est génial, qu'il y a plein d'idées. J'ai beaucoup moins aimé les suites d'ailleurs. Et au niveau des musiques de Little Big Planet, ce que je trouve intéressant, c'est cette approche qui est... Bon, allez, ils ont dû jouer à Rayman 2 et Rayman 3 quand même, hein, nos amis. Alors, on est sur le même concept de morceaux qui sont très longs, qui s'enrichissent au fur et à mesure de petits éléments pour terminer sur des mélodies complexes au bout de 5-6 minutes. Le morceau qu'on a entendu, hein, je ne l'ai pas pris du tout début, justement pour qu'on puisse entendre plusieurs éléments se mélanger. Ça m'a vraiment fait penser à du Rayman 2. C'est même, j'allais dire, presque du même niveau. Oui, j'avoue, j'aime beaucoup Rayman 2, mais on ne pouvait pas tout mettre dans l'émission. Et le jeu est très riche en thèmes variés, donc ça mérite d'être écouté, hein. ça passe bien, hein. Même sans jouer, à écouter tranquillement dans le baladeur MP3, ça fait bien l'affaire avec ces morceaux qui révèlent leur richesse seulement après plusieurs minutes d'écoute. Donc là on était dans le classique quoique, comme disait Creepers, maintenant on va aller vers le pas classique et même un peu hardcore.
Alors autant vous dire que c'était obligatoire, il avait sa place forcément dans cette émission spéciale Petit Bonhomme qui saute partout. Et puisque là, on a mis une musique de Super Meat Boy, la musique s'appelle C.H.A.D.'s Lullaby. Et c'était composé par Denis Baronowski, un excellent compositeur de jeux, qui d'ailleurs s'est aussi illustré sur Creep of the Necrodancer et sur la première version de Binding of Isaac. Donc Super Meat Boy, si tu as déjà joué... Je vais déjà donc casser une manette forcément en jouant à ce jeu là, c'était obligé. C'était une des grosses stars du Xbox Live Arcade à l'époque de sa sortie. Alors je dis peut-être une connerie, mais c'est peut-être partie des premiers Summer of Arcade, mais peut-être que je dis une bêtise. Hein. En tout cas, c'est vraiment un jeu qui a marqué énormément de personnes à l'époque sur la Xbox 360, parce que ça fait partie des gros jeux indés qui ont fait la marque et l'identité de la console, que justement on pouvait le trouver que sur Xbox 360 au début. C'était quand même la classe. Donc pour vous remettre dans le contexte, c'est un jeu un petit peu hommage à Super Mario Bros, hein, SMB, vous l'aurez, je pense, déjà compris. Et donc on jouait un petit morceau de viande ensanglanté qui sautait un petit peu partout, donc sur des niveaux très très courts qu'on pouvait pouvait vraiment traverser en quelques secondes.
Et au fur et à mesure, quand on connaissait. Hein.
Ouais, quand on connaissait. Au début, t'es un peu là, on m'a dit que c'était dur. Ouais. Et passer quelques niveaux. Et dès que t'arrives au premier boss, faut vraiment avoir des réflexes de fou furieux. Autant dire que les jeunes de maintenant peuvent peut-être y jouer, nous les vieux, qui, comme on commence à cligner un petit peu plus des yeux, bah, c'est foutu.
Il n'y a pas d'action replay alors.
Ah non, bah. Et par contre, tu parlais d'action replay, ce qui était cool, c'est que quand on mourait, on recommençait super vite. Donc l'action était non-stop, il n'y avait vraiment aucune coupure, donc c'est vraiment le gros point fort de ce jeu-là, en plus d'un level design de ouf. Un gameplay, mais ciselé au millimètre, c'était vraiment hyper bien conçu, à aucun moment tu peux le mettre en défaut. Donc c'est un gros chef-d'œuvre du jeu de plateforme qui est trouvable maintenant un petit peu partout. Donc si vous voulez kiffer sur un excellent jeu de plateforme avec une bande son complètement tarée, en plus même l'histoire, hein, vous avez des petites cinématiques complètement ouf, c'est vraiment hyper classe. Je crois que c'est le Docteur Fœtus, le méchant de l'histoire. Donc c'est complètement barré, c'est indispensable, tout comme la bande originale du jeu. En tout cas, foncez sur Super Meat Boy, et si vous aimez ce jeu-là, et si vous aimez, vous voulez en savoir un petit peu plus sur la création de ce jeu, il y avait un très bon documentaire qui s'appelait Indie Games The Movie. Alors en plus, il y avait aussi une excellente bande originale. C'est trouvable un petit peu partout assez facilement, même sur Netflix, je crois, et sur Steam. C'est un très bon docu où on suit justement les créateurs de ce jeu et celui qui avait fait Fez, si je me trompe pas, Phil Fish. Donc jetez un œil à tout ça, c'est plutôt sympathique, et jouez à Super Meat Boy. Allez, on reste dans les jeux un petit peu tarés, et cette fois, on va sur la machine portable de Sony.
Locoroco, sorti en 2006 sur PSP, et je crois bien que c'est le premier jeu PSP dont on parle dans la Beatsbox.
C'est vrai.
Il me semble qu'il n'y en a pas eu encore.
Non, exactement.
Alors c'est une machine, voilà, moi j'ai une PSP, j'avoue, j'y joue pas beaucoup, mais je joue pas mal à Locoroco, que j'aime beaucoup, où on dirige donc une espèce de, je sais pas, de bulle, quoi, de boule qui peut se séparer et qu'on fait glisser en pivotant l'écran d'une plateforme à une autre. Donc je vais considérer qu'il a le droit d'être là, mais de toute façon j'avais envie de le mettre parce que j'adore les musiques qu'on peut avoir, toutes les chansons qui parcourent le jeu, comme celles qu'on vient d'entendre, qui sont toutes chantées dans un langage inventé par Tsutomu Kouno, qui est le créateur du jeu. Pour créer ce langage, en fait, il a pris des mots qui venaient de différentes langues et il les a transformés pour que ça sonne bien à l'oreille et pour en faire un tout qui pourrait exister. Alors, n'essayez pas de comprendre les paroles, ça ne veut rien dire. Hein.
Vous pouvez toujours. Sauf si vous êtes bourré.
Ouais, voilà. Quand on est bourré, je crois que ça veut dire un truc, mais non, le faites pas. On peut pas encourager les gens à être bourrés quand même. C'est pas possible. Alors, ça donne une ambiance complètement démente à ce jeu. C'est un peu taré, c'est un peu autre, et on va rester dans ce type de jeu et de musique avec celui qui va venir de suite. Super Bowl.
just a hero. Julie Riano, just give me rice and vino. That's good. Real pasty.
Skullmonkeys est sorti en 98 sur PS1. On le disait un petit peu en off avec Creeper, c'était un jeu dont la jaquette était absolument horrible.
C'est dégueulasse.
Ouais, ça donnait vraiment pas envie d'acheter, et je dois dire que moi je l'avais acheté mais à 5 balles des années après sa sortie, parce qu'il coûtait tellement rien que tu vois, ce prix là je le prends, je m'en fous. Et quand j'ai mis le jeu dans la machine, dans la console, mais quel jeu de complètement allumé, quoi. C'est n'importe quoi, ce truc. Donc ça raconte l'histoire. Les Skull Monkeys, c'est donc des gros singes avec un crâne posé sur les épaules, pour donner une idée. Tous les personnages sont complètement fous. L'histoire n'a ni queue ni tête, mais quand même racontée à travers des cinématiques faites en pâte à modeler. Donc ça manie un humour totalement absurde. Donc évidemment, j'ai pas vérifié, mais c'est forcément anglais, un truc comme ça. Je pense que c'est pas possible autrement, hein. Et bien entendu, les musiques de Terry Scott Taylor sont tout aussi cintrées que le jeu. Donc ce qu'on vient d'entendre en est une belle illustration. Ce qu'on entend derrière mon discours palpitant en est une autre. On a beaucoup de morceaux qui sont chantés avec cette espèce de voix sourde qui sort de nulle part. C'est un peu n'importe quoi en permanence. Et l'air de rien, quand on y joue tout ça, ça finit par être cohérent et donner l'impression de quelque chose de normal. C'est normalement cintré. En quelque sorte. Tiens, pour rester dans le même genre d'idée, pas forcément cintré, mais dans l'idée d'une normalité un petit peu étrange, on va passer maintenant à ça.
Thank you.
Alors si on m'avait dit un jour, tu sais Creepers, un jour tu seras ému par une forme géométrique. Eh ben, je ne l'aurais pas cru, le petit bonhomme qui m'aurait dit ça. Et pourtant...
Même à ta puberté?
Ah, il est coquin. Il est coquin. C'est pas moi qui étais ému, c'était plutôt lui. Après, ça faisait le travail, on va dire. Est arrivé Thomas Was Alone, un jeu assez incroyable. Alors, moi, on en discutait d'ailleurs encore une fois avec Ron tout à l'heure. Et je lui disais que sans cette musique absolument dingue de David Housden et sans la narration... Donc, qui nous permettait justement de se mettre dans l'histoire. Donc, on nous racontait l'histoire de Thomas, ce petit cube, ce petit carré qui avance et qui rencontre différents personnages au fur et à mesure. Donc, on a, c'est un peu comme toutes les formes de Tetris au fur et à mesure. Donc, on a, je crois, un espèce de gros rectangle, on a
la grande barre,
l'espèce de grande barre, etc. Et donc, tout ça amène à des petits casse-têtes qui permettent d'avancer tranquillou. Mais si, en termes de prise en main, donc on est sur un jeu un petit peu classique au niveau du jeu, du gameplay, je voulais dire. Donc c'est assez facile, on n'est pas souvent bloqué. Mais par contre, le jeu est transcendé par la narration, est transcendé par la musique, et on arrive vraiment à se plonger dans cette histoire, alors que vous avez seulement trois petites formes géométriques qui avancent progressivement, sur lesquelles on peut changer pour pouvoir avancer. Donc c'est un petit tour de force qu'a réussi le créateur de ce jeu. Donc c'est un jeu indé qui est sorti d'abord, c'était d'abord sur PC, je crois que c'était un jeu Flash qui a été amélioré pour pouvoir sortir sur PS Vita, etc. Même sur PS4 je crois maintenant, PS3, etc. Donc c'est un très bon jeu, alors qu'il y a un côté classique qui peut un petit peu lasser au bout d'un moment, mais on est vraiment transporté par tout ça, par cette ambiance absolument incroyable, et ça coûte vraiment pas cher du tout. Si vous voulez tenter l'aventure, Thomas Was Alone, c'est vraiment très bien, et surtout la bande originale est carrément magnifique. Moi j'écoute souvent le morceau que je viens de vous diffuser, j'adore l'écouter dans le train tranquillement le matin pour m'apaiser, ou même des fois quand j'arrive au travail je le mets tranquillou. Je trouve que ça, voilà, ça apaise, on est bien, on se sent libre, et ça c'est beau. Alors, on va revenir sur une exclusivité, encore une fois, PlayStation. Et c'est parti. We'll be right back. Alors on retourne dans l'univers de Media Molecule, après Little Big Planet, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc on est sur Tyrowell, la musique c'est The Lab. Donc c'est une musique absolument enjouée, absolument cool, absolument folle. Pourtant le jeu je l'ai pas forcément... Alors j'aime beaucoup le jeu mais je suis pas forcément allé très très loin. J'ai fait la démo hein, pour tout vous avouer, mais c'est une musique que je trouve absolument magnifique, que j'avais écouté, j'ai écouté la bande originale en entier à l'époque de la sortie parce que j'avais vraiment beaucoup aimé les musiques du jeu. Et c'est un jeu qui a marqué énormément de monde parce que je trouve que par rapport à Little Big Planet qui a justement des... un univers qui est vraiment très très chouette, mais qui a pour moi des lourdeurs dans le gameplay qui m'empêchent un petit peu d'apprécier l'aventure. Là, je trouve qu'il y a énormément d'idées de jeu, énormément de très bonnes idées de jeu et qui sont bien concrétisées. Notamment sur PS Vita, vous avez la petite caméra qui permet de nous mettre comme le soleil qui justement dirige un petit peu les personnages du jeu. Et je trouve ça vraiment génial. Et c'est un jeu qui peut vraiment plaire énormément aux petits parce qu'on peut jouer avec les éléments de décor, avec le papier, parce qu'on a des décors qui jouent un petit peu sur le papier, les personnages et tout. Donc c'est un univers incroyable, c'est un jeu qui est très très agréable à jouer, et donc j'ai hâte de vraiment le prendre, parce qu'il est ressorti sur PlayStation 4, mais je pense vraiment que je le ferai sur PS Vita, parce que les idées de gameplay sont excellentes avec le tactile, etc. Donc c'est un très bon jeu, vous pouvez foncer là-dessus, et ça montre encore une fois que Media Molecule est un studio particulièrement original, et cette fois vraiment, pour moi, c'est leur chef-d'œuvre. Voilà, même si j'ai pas joué complètement, hein, on va être honnête, comme je l'ai dit, mais pour moi, c'est vraiment l'accomplissement total de leur façon de créer un jeu. C'est original à chaque fois, et c'est très bien fichu.
Le titre est pas évident à dire, j'espère que je vais pas me louper, c'est The Misadventures of PB Winterbottom. Pas mal, sorti de 2010 en PC, sur PC, sur 360. Alors on avait là un jeu qui est sur un concept assez étonnant, avec un personnage capable de manipuler le temps et donc de se dupliquer. Peut-être que Quantum Break s'est inspiré de PB Winterbottom finalement, dans ce principe de manipuler le temps. Et on est dans une ambiance de film en noir et blanc, avec des personnages découpés en nombre. Et on retrouve donc une bande-son typique de cette époque, hein, des Harold Lloyd et autres. Et on n'a pas de mal du tout à s'imaginer le jeu projeté sur un drap, comme on projetait les films dans les années 20 ou 30, avec le piano à côté qui accompagnait la musique. Donc c'est très enjoué. Ça donne du cachet à ce jeu, et quand j'y ai réfléchi, j'ai tenu à le mettre parce que j'ai pas eu en tête d'autres jeux qui avaient ce type de musique et ce type d'ambiance, donc c'est suffisamment rare pour qu'on s'y intéresse. Je vais être tout à fait honnête, sur la durée, le jeu lasse un peu, mais l'originalité est là au départ, donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Un jeu vraiment très sympa et des musiques qui valent vraiment le coup. En parlant de musiques qui valent vraiment le coup, ça y est, on va arriver à un de mes jeux préféré de cette sélection. Je crois que j'aurais pu faire toute l'émission rien qu'avec des musiques de Rayman. Alors là, c'est Rayman Origin qu'on vient d'entendre, le morceau Lost Beast. Là aussi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un morceau, tellement il y a des morceaux différents. Alors ça se trouve, c'est pas votre préféré, j'en sais rien. Mais les musiques de Rayman Origin et aussi celles de Rayman Legend, ce sont juste des merveilles. C'est Christophe Héral, un compère de Michel Ancel, qui s'en occupe. Et voilà, je le dis franchement, pour moi, c'est un putain d'artiste de premier plan. Il participe à peu de musique, mais à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça fait mouche. C'est excellent, on reste accroché, ça s'écoute tout seul, c'est formidable. C'est un gars qui a aussi officié pour le cinéma, mais pour moi, c'est vraiment ses BO de jeu qui sont exceptionnels, qui restent dans l'oreille. Pour un même jeu, il y a énormément de variétés dans les styles. Sur les Rayman, ça va de musique assez festive à des musiques parfois même inquiétantes. Et malgré tout, il y a une unité globale dans tout ce qui est fait à travers des rythmes un peu world music assez souvent, des tonalités jazzy. C'est voilà. Moi, j'adore ces musiques. Je vous encourage très très fortement à pencher une oreille dessus si vous ne connaissez pas les Rayman. Et si vous connaissez les Rayman, de toute façon, je suis persuadé que vous êtes déjà convaincu.
Et en plus, ce Rayman Origins, c'était vraiment le comeback de Rayman. Parce qu'il y avait un petit peu marre des lapins crétins. C'était un peu devenu le représentant des lapins crétins, le pauvre Rayman. Et là, il faisait un retour, mais en force,
Tony Truant.
Avec une identité visuelle et justement, comme tu disais, musicale, complètement marquée, avec du rock, etc. Enfin, c'était vraiment le retour de Rayman en surpuissance. Et ouais, qu'est-ce que j'ai kiffé aussi, ce Rayman Origins, quoi. C'est un vrai bonheur à jouer, à écouter.
Absolument. Alors ça, c'est devenu un classique, hein, presque instantané. Et eh ben, il y a peut-être eu aussi un classique instantané qui a débarqué en 2015.
Attention, chef-d'œuvre, les amis. Et oui, 2015, c'était l'année de la pelle. Alors, pas les pelles que vous vous rouliez comme ça dans la cour de récré, hein, bande de cochons, mais Shovel Knight, le chevalier à la pelle, a débarqué sur nos consoles. Alors, d'abord sur Wii U, 3DS, etc., avant de débarquer sur PlayStation 4, Xbox One. Donc, c'est un jeu qu'on peut trouver partout. C'est un petit chef-d'œuvre de plateforme, alors qui s'inspire, comme dans la musique justement de Jake Kaufman, des gros hits 8 bits de l'époque, mais en gardant quand même un petit côté moderne au niveau de la prise en main. Et en même temps, faut le dire, il faut se l'avouer, graphiquement, même si ça s'inspire des jeux 8 bits, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fouillé, beaucoup plus joli, avec pas mal de petites choses qui se passent dans les niveaux plus précis, voilà, exactement au niveau des couleurs, etc. Donc c'est un très 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 grand jeu, et donc la musique, bah, vous pouvez carrément l'écouter à part, parce que c'est vraiment un peu comme les musiques des Megaman, c'est des bombes en puissance qu'on peut réécouter tranquillou, et qui nous emballent complètement dans l'aventure de ce chevalier absolument incroyable. Donc vous voyez, je suis complètement emballé. Je suis complètement fou de ce jeu. C'est un chef-d'œuvre et puis c'est tout. Allez, on reste en 2015. On arrive dans le zen et le mélancolique, un petit peu triste.
Sorti sur Xbox One et sur PC. Alors là voilà, c'est un choix commun hein, de Creepers et moi-même. C'était impossible de pas avoir Ori dans cette sélection.
Clairement.
Alors déjà parce que c'est un jeu formidable en tant que tel. Graphiquement, c'est une merveille tellement il est beau.
C'est beau à en chialer, mon ami. On va tous pleurer, c'est beau.
Les animations sont géniales, même le jeu en lui-même, c'est pas un jeu facile, hein, voilà, c'est bien foutu, y a rien à dire là-dessus. Mais là, on est en train de parler de musique. Et alors, la musique d'Ori. Oh là 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 là.
Je rajouterais même. La la la.
Oh, c'est clair. Alors, c'est un certain Gareth Cocker qui a composé cette musique, un Anglais de 31 ans. Voilà, rien à voir avec vous. Il est encore jeune, celui-là. Donc, il n'a pas fait grand chose encore, étrangement, mais j'ai comme dans l'idée que sa cote est montée d'un ou deux crans après cette bande originale. Alors, le morceau qu'on a entendu, hein, exprès, j'ai sélectionné un morceau qui mélange un petit peu de mélancolie, de tristesse, mais aussi d'action, parce que c'est ça, Ori, et c'est ça qui est absolument fantastique. Rien que les musiques te dressent les poils sur les bras. Il y a des moments où t'as envie de te prendre pour un super héros et d'y aller. Il y a d'autres moments où t'as envie de pleurer tellement c'est magnifique. Alors franchement, si vous devez aller acheter une OST, prenez celle d'Ori. Ça coûte pas cher, ça va vous coûter 10€. Et ça les vaut largement. Vous l'écouterez et vous l'écouterez encore. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais moi c'est mon coup de cœur de 2015.
Donc si vous avez des poils et que vous aimez les voir se dresser, écoutez la musique de Ori, vous l'avez compris. Oh mon Dieu, Rune, mais là aussi c'est triste. C'est fini déjà.
Non, pas déjà.
Mais si.
Non, un jour il faudrait qu'on fasse des émissions de 3 heures. Ah non, on a dit qu'on se tenait à ce format-là.
Alors on vous connaît, on sait que vous êtes déjà en train de râler, mais pourquoi ils ont pas passé ça? Et pourquoi ils ont pas passé ça? Alors c'est vrai, il y a énormément de très bonnes musiques dans les jeux de plateforme, alors n'hésitez pas à nous laisser justement vos titres préférés, les jeux qu'on a oubliés. Par exemple, Rune, est-ce qu'il manquerait pas un peu de jeu rare?
Eh ben oui, alors c'est curieux, peut-être que chacun dans sa sélection a pensé que l'autre allait en prendre.
Je crois que c'est ça.
Hein, il doit y avoir un peu de ça, parce que finalement on se retrouve avec aucune musique de jeu rare, alors qu'il y a des musiques absolument merveilleuses sur leur jeu de plateforme. Voilà, c'est comme ça. Mais comme on l'a dit, hein, on est dans un format où on est obligé de faire des choix. Peut-être que dans un an, on fera les jeux de plateforme 2, le retour, et qu'il y aura des jeux rares, je sais pas. Mais voilà, il fallait un peu trancher dans le vif. On a un peu choisi des choses peut-être originales. Donc il y a des classiques qui sont pas passés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous auriez voulu entendre, ça pourra peut-être nous donner des idées pour une autre émission.
En tout cas, en attendant, on vous fait des bisous, on vous donne rendez-vous sur pcqdg.com, sur Xboxygène, le site incroyable qui parle de Xbox, mais aussi de plein d'autres choses. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud et chez Bad Geek. Et encore une fois, on vous souhaite une merveilleuse, excellentissime année 2016. On
espère
que vous avez commencé en bonne compagnie avec nous. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. Des bisous.
Salut.